Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Oui, parce qu'on a rehaussé le plan Vigipirate dans le pays à son niveau le plus élevé, urgence attentat. Le président de la République est parti pour la Guyane et évidemment le chef de l'État a dit un mot sur cette menace terroriste. On écoute Emmanuel Macron.
La Russie a été touchée par l'attaque terroriste islamiste que nous avons connue ces dernières années. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et la mise à exécution. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate.
Alors, on va justement parler de ce renseignement. Comment est-ce qu'on peut se prémunir contre la menace terroriste? Avec Jérôme Poirot, il est consultant terroriste pour BFM TV. Et Jérôme, vous êtes ancien adjoint à la Coordination Nationale du Renseignement.
Donc Emmanuel Macron nous dit que la branche du groupe État islamique qui a attaqué, donc qui a fait 137 morts selon le dernier bilan en Russie, aurait eu l'intention de faire des attentats chez nous, des attentats déjoués.
Ah oui, si le président de la République le dit, il n'y a aucun doute sur le sujet. Il y avait déjà eu un certain nombre de choses qui avaient été dites, des projets visant la France, visant nos voisins. Vous savez, c'est pas très difficile, finalement, de savoir quel est l'état de la menace. Il se trouve qu'on a des administrations qui sont faites pour ça, c'est les services de renseignement, ça fait partie de leur métier, ils font ça en étroite coopération avec beaucoup d'autres services de renseignement dans le monde. Donc, ils savent en permanence quel est le niveau de la menace, s'il y a des projets qui se préparent, avec qui, comment, ce qui fait que beaucoup de projets d'attentats sont déjoués, mais quelques-uns passent à travers les mailles du filet.
Macron voudrait coopérer avec Moscou, hein. Il appelle à une coopération. Oui. En ce moment, ça va être compliqué, si ?
Non,
quand même, les services de renseignement coopèrent, s'il y a ce conflit ukrainien ?
Ce qui guide l'activité des services de renseignement, c'est les intérêts de leur pays. Et donc, vous coopérez avec parfois des pays et des services de renseignement pays sur des coopérations tout à fait improbables parfois. Et ça dépend des thématiques. Là où tout le monde a le plus intérêt à coopérer, c'est dans le domaine de la lutte antiterrorisme. Donc il y a toutes sortes de coopérations parfois bizarres.
Parce qu'on a des ennemis en commun, en fait.
Parce qu'on a des ennemis en commun et que la menace est très très sérieuse. Vous savez, même au moment où, je crois que c'est François Hollande, a fait fermer l'ambassade de France en Syrie, ça a râlé du côté des services de renseignement français. Parce que vous pouvez vider l'ambassade de tout son personnel, de tous ses diplomates, mais vous gardez l'ambassade ouverte, c'est-à-dire que l'enceinte diplomatique existe, et donc ça permet à des Français, donc des gens des services de renseignement, de venir tranquillement, si j'ose dire, en Syrie, puisqu'ils savent où aller, et ça facilitait les contacts avec les homologues syriens, même si par ailleurs on était en guerre quasiment contre la Syrie. Donc les services de renseignement, ils sont habitués à ça. Vous pouvez avoir deux services de renseignement, par exemple la CIA et la DGSE, qui le matin se voient dans une réunion pour parler de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les armes de destruction massive, et l'après-midi, d'autres gens de la CIA qui essaient de voler nos secrets industriels, nos secrets scientifiques, et la DGSI qui essaye de les empêcher de le faire. Donc, c'est ça la vie des services de renseignement. Ce sont les intérêts des pays qui guident leur action.
C'est quoi ce groupe islamiste, alors, au Khorasan, là ? Alors, d'où vient-il ? De quelle scission est-il né ? Que cherche-t-il ? Parce qu'on pensait avoir bousillé l'État islamique. Quoi,
donc. On a mal pensé, parce qu'en fait, la menace djihadiste, elle est très prégnante en Afghanistan, en Occident, et notamment en France, depuis, on l'a vécu depuis 1995. À l'époque, c'était le groupe islamique armé, le GIA, c'était les terroristes algériens qui ont commis toutes sortes d'attentats extrêmement, extrêmement violents en France. Et puis, il a été neutralisé, notamment par les Algériens. Après, on a eu Al-Qaïda, avec les attentats du 11 septembre 2001, les attentats à Madrid, à Moscou. On a eu en 2015 toute une série d'attentats. Bon, donc c'est toujours la même mouvance. C'est le djihadisme international qui veut terroriser l'Occident, qui veut convertir tous ceux qui ne sont pas musulmans et ceux qui ne veulent pas se convertir, les égorger. Alors, par moments, ça s'appelle Al-Qaïda, par d'autres moments, ça s'appelle l'État islamique. Et l'État islamique du Khorasan, il est né fin 2014, début 2015. C'est une scission des talibans pakistanais et d'une frange d'Al-Qaïda. Donc, c'est une mouvance de plus. Il ne faut pas s'attacher au nom de ces organisations. GIA, Al-Qaïda, État islamique, c'est la même chose.
Mais en fait. Ça me surprend. Alors, je ne sais pas, il faut faire attention à ces images venues de Russie, mais ceux qui ont été pris, qui ont été arrêtés, hein, ceux qui ont participé à cet attentat, expliquent qu'ils ont été payés. Alors, moi, j'avais l'impression que jusqu'à présent, les islamistes, ils faisaient ça pour la cause divine et ils étaient d'ailleurs prêts à mourir pour le Dieu qu'ils servent. Là, finalement, ce sont plutôt des mercenaires.
Bah, là, il y a quatre Gugus qui ont été arrêtés près de Briansk, c'est-à-dire tout près, enfin, à peu près 400 km au sud-ouest de Moscou, près de la frontière ukrainienne. Ils ont passé de très sales quarts d'heure. Hein. Oui. Ils ont été torturés. On ne sait pas d'ailleurs si ce sont les quatre mêmes que ceux que l'on voit dans une vidéo qui a été diffusée par l'agence de presse de l'État islamique au Khorasan. Il est probable que ça ne soit pas les mêmes. L'un a un gros pansement sur le visage, le côté du visage. Il a eu une oreille qui était coupée au couteau. D'autres ont subi des tortures à l'électricité.
On voit aussi le sac en plastique autour du cou. Alors, je ne sais pas, il a dû être utilisé pour les étouffer.
Ils ont subi tous les sévices qu'on peut imaginer. Donc, ils racontent ce qu'on leur demande de raconter. Vous voyez, il y a un élément qui est quand même extrêmement troublant. Ils se sont fait prendre comme des agneaux.
Oui.
Bon. Alors, l'un a avoué qu'ils auraient jeté leurs armes quelques kilomètres avant d'être pris. Voilà les grands professionnels. Donc, tout ce qu'ils peuvent...
C'est pour ça que vous dites Gugus.
Ah bah oui, tout ce qu'ils peuvent raconter, il faut porter évidemment aucun crédit, accorder aucun crédit.
D'accord, c'est peut-être même pas les auteurs de l'attentat.
C'est ce que j'indiquais. Et encore, ce qu'on voit sur la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo-là d'une minute trente, il n'est pas du tout certain que ce soit les principaux acteurs de l'attentat qui a été commis.
Ce qui est étonnant sur cette vidéo, c'est qu'on n'entend nulle part une réplique russe, on n'entend pas les Russes tirer.
Ah ben non, les forces de sécurité, elles sont arrivées quand tout le monde était parti, enfin quand les terroristes étaient partis. Et sur cette vidéo, ils tirent sur des cadavres. Oui. Et il y a un des quatre qui donne des coups de couteau à quelqu'un qui sans doute est déjà mort. Et un des quatre se promène non pas avec une Kalachnikov, mais il a un sac à dos, pardon, dans une main et un couteau dans l'autre. Alors, on est loin des frères Kouachi, on est loin du commando du Bataclan,
ça veut
on est
dire
loin
quoi
de tous les... Ça ressemble à une mise en scène.
Ah oui.
Une minute trente. L'attaque a duré quand même un certain temps.
Oui.
Et on a une caméra piéton, une minute trente. Vous voyez sur les images, il y en a un des quatre qui montre du doigt un endroit en disant « faut aller là ». Et vous avez un de ces quatre qui tire à la Kalachnikov sur des cadavres. Ensuite, ils continuent à marcher tranquillement. Ils ne craignent pas, manifestement, l'intervention des forces de l'ordre.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait eu une première équipe qui aurait fait le massacre, et ensuite des gens qui sont là, qu'on instrumentalise, et on met en scène...
Les quatre qui ont été arrêtés à Briansk, ça a l'air d'être des bras cassés.
Oui, c'est ça.
Les quatre qu'on voit sur la vidéo à Moscou, ça n'a pas l'air de grands professionnels non plus.
Ceux qui ont fait autant de morts, quels commandos alors?
Alors, il y a un certain nombre...
Parce que là, je vous vois cheminer...
Non, mais il y a un certain...
Je me mets à la place, si j'étais dans ma voiture en train de vous écouter, je dirais, Poirot, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait du complot en disant que c'est les Russes qui, eux-mêmes, ont fomenté un commando, et puis à côté, ils ont arrêté des lampistes.
Alors, on est en Russie, donc...
Oui, je sais.
L'information, ça ne veut rien dire.
On n'est pas dans un pays démocratique. Ce qui est certain, c'est que cet attentat, il y a une vérité indiscutable, c'est qu'il y a eu des centaines de victimes.
Oui. 137 morts.
Des morts, près de 200 blessés, c'est indiscutable. Ce qui semble indiscutable aussi, c'est que c'est bien l'État islamique du Khorasan qui a revendiqué, qui a perpétré l'attentat et qui est à l'origine de l'attentat. Reste la question de savoir qui sont les commanditaires. Bon, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui exécute.
Oui.
Hein, c'est comme quand vous recrutez un tueur, celui qui... qui tire des balles dans la tête de la victime, c'est le tueur, mais souvent il a été commandité. Il y a quand même beaucoup d'éléments troublants, et ce que je vous dis là, c'est partagé par beaucoup de spécialistes et de gens de services de renseignement étrangers occidentaux qui en discutent entre eux. Ça tombe à pic pour Vladimir Poutine, à la fois pour mobiliser la société russe, pour tenter de recruter davantage de soldats dans son armée. Ça fait 2 ans quand même qu'il peine à garnir les rangs de son armée. On a l'expérience des 2 premières guerres de Tchétchénie, où ce sont des attentats, les 4 de 1999, dont on sait que c'est le FSB qui était à l'origine. Ceux de 2004, celui de 2004, l'attentat de Beslan, ça a permis, à la fin, de gagner la guerre.
Mais là, il y a quand même un grand sous-entendu dans ce que vous nous dites.
Ben, ce n'est pas un sous-entendu, c'est une hypothèse. Si on donne foi simplement à ce que disent les autorités russes, on ne va pas aller très loin. Mais je note que dans une déclaration officielle française, alors je ne sais plus si c'était la présidence de la République ou le Premier ministre, mais peu importe, sont les autorités françaises, la première déclaration qui a été faite, sa conclusion était une forme d'ambiguïté, disant qu'il faudra que toute la lumière soit faite. Mmh. Donc ça montre bien que
Macron, parce que je suis en train de revoir ce que dit précisément Emmanuel Macron, il dit « il faut se garder de toute instrumentalisation, déformation, mais être exigeant et efficace ». Voilà.
Jérôme Poirot, vous restez avec nous, ancien coordinateur
adjoint
du service des renseignements et de la défense. Vous restez avec nous, on continue de discuter des hypothèses de l'attentat, bien sûr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, on discute, on débat, on essaie de comprendre aussi ce qui s'est passé du côté de la Russie, quels peuvent être les commanditaires. C'est Jérôme Poirot, consultant terroriste BFM TV, ancien adjoint à la Coordination Nationale du Renseignement, qui est avec nous. Joël Dagosséry, question, et puis ensuite on enchaîne. Joël.
Moi j'ai une question sur les renseignements. On a vu qu'ils n'ont pas été pris en compte par la Russie, notamment les États-Unis qui les avaient un peu prévenus de ce qui allait arriver. L'Égypte parie avec Israël. Donc moi, je voudrais savoir s'il y a des critères précis pour que les dirigeants des pays prennent en compte en fait les renseignements qui leur sont amenés.
Ça fait un peu peur. Vous posez la grande question qui hante les services de renseignement. C'est exactement celle-là. Il y a 1000 exemples dans l'histoire où les services de renseignement ont bien fait leur métier, c'est-à-dire ils ont apporté une information de très grande valeur qui n'a pas été prise en compte. Un des exemples les plus frappants, c'est l'attaque par l'armée allemande de l'URSS le 22 juin 1941. Staline avait été prévenu, il avait des services de renseignement d'une extrême efficacité, ça venait de différents endroits, notamment Richard Zorge, un des grands espions au service de l'Allemagne, qui était au Japon, de l'orchestre, enfin différents endroits. Il n'y croyait pas. Il n'a pas voulu prendre en compte. Et d'ailleurs, dans les premiers jours qui ont suivi l'invasion de l'URSS par l'armée allemande, il était terrorisé. Il avait compris qu'il avait fait une erreur. Il n'y a pas de critères. C'est à la fois la grande noblesse des services de renseignement, mais c'est aussi leur grande tragédie, c'est que parfois, le décideur, c'est le responsable politique.
C'est aussi dans un flot de conneries, aussi, des fois.
Question de Didier.
Oh, dans un flot de conneries, ça peut arriver.
Non, mais quand vous êtes russe et que des Américains vous donnent un renseignement. Voilà.
Ça, effectivement, on peut avoir des doutes parce que c'est quelqu'un avec qui on coopère, mais qu'on méprise par ailleurs ou qu'on envie. Et donc, en fait, il a fait le boulot à votre place. Ça, c'est certain. Mais il y a un autre phénomène qui est très important en complément de votre question, madame, et notamment dans ces pays qui ne sont pas des pays démocratiques, c'est les services de renseignement hésitent parfois à dire la vérité, hésitent souvent à dire la vérité. Et à l'époque du NKVD, c'est-à-dire sous Staline, le prédécesseur du KGB, le grand service de renseignement police politique soviétique, il y avait une devise, deviner, satisfaire, survivre. Donc, devinez ce que les dirigeants veulent lire ou entendre. On devine, on gratte le papier qu'ils ont envie de lire. Et c'est bien. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec l'invasion en Ukraine en février 2022.
Beaucoup n'y ont pas cru.
Le général du FSB qui était chargé de ça, manifestement, dans ses rapports, il a indiqué que l'accueil qui sera réservé à l'armée russe serait assez chaleureux.
Oui, mais c'est ce que Poutine voulait dire. Le président Poutine sort d'une élection où il a gagné à 87%, élection à la Russie.
Bravo,
bravo. Bah, bravo, félicitations, quel beau score. Là, il a un attentat sur son sol, où il désigne l'Ukraine à mots couverts et découverts. Alors qu'il y a deux revendications de l'État islamique.
Trois même.
L'État islamique est obligé d'insister en disant « Non, non, c'est nous, regardez, vous n'y croyez pas, vous désignez l'Ukraine, c'est bien nous. » Donc je vois mal quel serait l'intérêt d'une opération interne du FSB dans cette histoire. Quoi.
Bah, si l'attentat avait été commis quelques jours avant l'élection présidentielle, ça aurait affaibli Vladimir Poutine. Là, il se trouve que l'attentat a eu lieu une petite semaine après l'élection présidentielle. Donc son pouvoir n'est pas en cause, son pouvoir n'est pas menacé, sa réélection a eu lieu.
Assuré, ouais.
Donc instrumentaliser cet attentat, évidemment, au sein de la société russe, ce qu'il n'a pas manqué de faire, et puis pour insister à la fois au sein de la société russe et vis-à-vis de l'extérieur sur le fait que il faut évidemment éradiquer l'Ukraine, rebaptisée depuis quelques jours Néo-Nazi-Land par les Russes.
Moi, j'avais une question. L'ancien appelé que je suis, qui a gardé une route de campagne à la frontière suisse en 95 dans le plan Vigipirate, une route de campagne d'ailleurs où il passait une voiture par jour à peu près. Oui, ça servait vraiment à quelque chose. De quoi nous protège Vigipirate aujourd'hui?
Ah ben, ça protège parce que on a eu beaucoup d'exemples d'attentats déjoués ces dernières années. Où les militaires de Sentinelle, notamment, ou les forces de police ou de gendarmerie, parce qu'elles sont beaucoup plus largement déployées dans l'espace public, ont pu intervenir directement. Vous me direz, il y a eu aussi notamment un cas au centre commercial de la Défense, à Paris, où la cible, c'était un militaire de Sentinelle qui a été attaqué au couteau. Donc les forces de l'ordre peuvent être aussi la cible. Mais si, ça rassure la population. Donc ça,
voilà, est-ce que c'est pas que ça, quoi? Est-ce qu'il y a une efficacité militaire?
Non, c'est pas que ça. On l'a vu, par exemple, aussi avec, je crois, l'attentat de Bir Hakeim, sur le pont de Bir Hakeim le 2 décembre dernier. Il y a une très forte présence des forces de police, de gendarmerie et des militaires de Sentinelle. Donc, ils interviennent plus rapidement. Et dans le cas de l'attentat de Bir Hakeim, ça a permis de neutraliser le terroriste plus tôt. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait peut-être poursuivi son parcours meurtrier.
Ça n'évite pas l'attentat, mais ça freine limiter, dans sa progression.
Je pense aussi que ce qui intéressera nos auditeurs, c'est par rapport à la situation en France. On voit là qu'il s'agit d'un groupe bien particulier qui est l'État islamique au Khorassan. D'ailleurs, il y a eu une vague d'arrestations ce week-end suite à l'attentat de Moscou dans d'autres pays, par exemple au Kirghizistan, qui est un pays qui est une ancienne république soviétique devenue indépendante. Le gouvernement kirghize a apparemment mené, et ça a été filmé, beaucoup d'arrestations de militants islamistes. Et donc dans beaucoup de pays de la zone d'influence russe, il y a eu une vague d'arrestations, un coup de filet sur les islamistes. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, ce qu'on pouvait lire dans le Figaro ce matin, c'est un groupe aussi qui menace la France, qui menace l'Occident. Deux Afghans affiliés à ce groupe ont été arrêtés en Allemagne et de là, ils préparaient un attentat contre la Suède. Apparemment, ils peuvent frapper la France. Quel est le profil type en France du djihadiste de l'État islamique au Khorassan? De quel pays est-il originaire? Voilà, comment est-il surveillé? Quel est le profil pour ce groupe? Parce qu'on connaissait Daesh, version classique. Là, pour ce groupe-là, quel est le profil?
Alors, profil type, c'est toujours un peu délicat de répondre à ça. Mais enfin, si, on a beaucoup d'éléments. Notamment dans sa grande interview il y a quelques semaines, Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, a donné une description de la menace islamiste qui vise la France très inquiétante. Il a fait référence notamment aux djihadistes russophones, c'est-à-dire issus de ces anciennes républiques du sud de l'URSS, un certain nombre de pays que vous avez cités. Et on en voit la traduction concrète. On parlait de l'attentat du 2 décembre sur le pont de Bir Hakeim. C'était un Iranien, donc c'est le Khorassan, naturalisé français, et qui a revendiqué cet attentat au nom d'un certain nombre de choses, mais il s'est décrit lui-même comme étant un des membres de fait de cette organisation terroriste. Et puis, les deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, qui ont été assassinés, ils ont été assassinés, effectivement, par des djihadistes originaires de ces régions-là, qui sont des russophones, des islamistes. Donc, il y a déjà une traduction concrète en France de ce que cette menace. Pendant longtemps, c'était une menace venant d'Afrique du Nord, d'Algérie, pour l'essentiel, également de Tunisie. On a une menace qui est...
Excusez-moi, est-ce que cette menace maghrébine, on avait vu d'abord les Algériens avec le GIA, ensuite, et puis Mohamed Merah, ensuite les Marocains du Khaled RIF.
Kalkade,
voilà, et les Marocains du RIF, venus de Belgique, notamment Molenbeek au moment du Bataclan. Est-ce qu'il y a une décrue aujourd'hui du risque issu du Maghreb, ou non, ça vient se surajouter, il reste toujours très élevé, et il vient se surajouter au risque.
Ça vient se surajouter avec un risque aussi qui vient.
Le risque maghrébin n'est pas du tout en décrue.
Non, et qui vient du Sahel aussi, parce que l'armée française a quitté le Sahel. Et donc là, on est en présence d'une vaste zone de plus en plus où les djihadistes sont chez eux, parce que les gouvernements qui sont en place sont, pour certains, complices, au moins passifs, des mouvements djihadistes. On a la menace, jusqu'à présent, on n'a pas eu de cas venant des groupes djihadistes de la péninsule arabique. Alors, ils ont beaucoup à faire dans la région contre des intérêts occidentaux, mais ça pourrait arriver. Mais là, ce qui manifestement est en train de prendre le dessus, c'est bien la menace russophone originaire de ces régions.
Est-ce qu'on a eu des menaces sur le sol français de groupes venant du Sahel, du Mali, où ça ne s'est encore jamais posé, sur le sol français, sur le sol métropolitain?
Alors, il faut que je réponde en prenant en compte les déclarations publiques, parce qu'il y a ce que je sais et puis ce que je peux dire. Donc, venant du Sahel, je n'ai pas mémoire de cela, mais ça peut arriver.
D'après les déclarations publiques.
Merci Jérôme Poirot, merci d'avoir été avec nous. Ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement.